Voilà, merci beaucoup. Il nous reste alors pas beaucoup de temps, il nous reste une dizaine de minutes pour des questions éventuelles ou des remarques que vous pourriez avoir à faire aux trois intervenants. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole?
Par le ministre Van den Bossche à l'époque.
Qui a envoyé les personnes pour tuer dans l'œuf
En gros, hein, Van den Bossche avait mené des réformes similaires au niveau de la région flamande. Et ça avait donné des résultats encourageants. Et donc il a été nommé effectivement pour essayer de mettre en œuvre les mêmes choses au niveau fédéral. Pour être très clair, je pense que ça ne plaisait pas au Parti socialiste. Et quand il a nommé Arena, il avait pour mission, selon mes informations, je vais dire comme ça, de tuer complètement Copernic.
Donc c'est vraiment un niveau.
C'est au plus haut niveau.
Au plus haut niveau que peut-être qu'il faut déjà arranger.
Absolument, c'est au plus haut niveau qu'il faut arranger ça, selon moi. Tant mes collègues auront peut-être d'autres choses à dire sur la question.
Mais il y a un autre aspect qui a joué. Je dirais dans l'ensemble des rapports de force. C'est comme la réforme de Luc Van den Bossche est une réforme qui est imposée. Elle a été acceptée du bout des lèvres par un certain nombre de partis politiques. Elle a été refusée par les organisations syndicales.
Ouais, tout à fait.
Et moi, j'ai vécu toutes les discussions avec non seulement entre Luc Van den Bossche et tous les secrétaires généraux à l'époque, qui étaient des discussions assez conflictuelles, il faut dire. Luc Van den Bossche n'était pas un homme de consensus, parce qu'il avait une idée en tête qu'il voulait faire passer intégralement. Le personnel, via ses organisations syndicales, n'ont pas eu l'occasion d'être partie prenante à la réforme. Et donc il s'est trouvé à un certain moment un décalage compte tenu de ses forces en présence, qui a fait qu'à la première occasion politique, les syndicats ont fait pression sur les partis qui étaient plus proches d'eux pour pouvoir faire bouger les lignes dans un autre sens. Et ça, c'est aussi, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi une façon de concevoir le changement. Une fois que vous concevez le changement sans, je dirais, créer le désir de changer au niveau de toutes les parties, vous courez le risque qu'à la première occasion, on revienne en arrière, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Exactement. Ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais ça a été imposé from outside au lieu de l'intérieur. Mais effectivement, faire grandir le sentiment de réforme de l'intérieur n'est pas facile, hein, parce que c'est comme toujours, ceux qui crient le plus sont ceux qui, le plus souvent, veulent le moins changer.
Peut-être, on a entendu votre avis, Monsieur Ledoux, sur l'expérience de Olivier Bailly. Moi, je voulais avoir l'avis de Monsieur Damar, voilà, par rapport à cette expérience-là, et en fonction de ce que vous nous avez dit dans votre partie de l'exposé, est-ce qu'effectivement, il y a des expériences qui sont mitigées dans la mise en œuvre de ce type de New Public Management?
Je vous ai écouté, évidemment, et je perçois, quand on voit les différents niveaux de changement tels que je les ai expliqués, un hiatus énorme entre le volet stratégie, hein, et le volet action, dans la mesure où je perçois deux hiatus importants. Le volet stratégie et le volet action, je veux dire par là qu'il y a une stratégie d'efficience maximale, hein, qu'au niveau de l'action, ce n'est pas supporté par des processus cohérents. Tous les hiatus en termes de processus dans les tournées que vous avez expliquées et la marge de manœuvre qui est laissée, hein, au cadre intermédiaire, ce n'est pas des processus cohérents. Et donc, pour moi, il y a un problème de réconciliation et de cohérence entre la stratégie d'une part et les processus d'autre part. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, au niveau de l'alignement des personnels maintenant, elle touche à la compétence des managers de ville. Et vous l'avez bien souligné, il y a un réel problème des compétences des managers de ligne pour épauler leurs équipes. Ce qui, pour moi, dans le management public d'aujourd'hui, est un aspect essentiel. Et dès l'instant où on ne travaille pas cet aspect-là, la combinaison des deux crée au niveau de, du facteur une démotivation. Vraiment, on n'en a pas fini. Mm-hmm. Donc voilà, moi, le décodage que je fais à travers l'expérience telle que vous l'avez illustrée. Mm-hmm.
Merci. Oui, mademoiselle.
Justement, par rapport à ça, quelles peuvent être les solutions concrètes pour améliorer la vie des gens qui travaillent à Poste? Entre la formation des managers.
Évidemment, dans une entreprise publique comme la Poste, comme d'autres, la stratégie s'élabore toujours au niveau du sommet. Elle peut être irriguée par la base. J'ai dit tout à l'heure la détection des signaux faibles, la base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec l'extérieur, avec la société, avec les clients, peuvent avoir des inputs absolument phénoménaux qui peuvent alimenter la stratégie. Mais la stratégie reste définie au sommet. Ça, c'est un point. Deuxième point, et je vais faire un petit retour en arrière par rapport à la réforme Copernic. Luc Van den Bos a toujours dit, il n'avait pas tout à fait tort, mais il n'avait pas raison non plus, mais sur cet aspect-là, je pense qu'il avait raison, en disant, moi, ma stratégie, elle est top-down, mais au niveau des processus de travail, ce qu'on a fait, le re-engineering, là, ce sera du bottom-up, c'est-à-dire qu'on va impliquer les acteurs de terrain. Et c'est ce que nous avons fait dans un certain nombre de départements pour le re-engineering des processus. Les consultants sont venus nous aider, mais pas sur le fond, sur la méthodologie du re-engineering. Mais sur le fond, ce sont les spécialistes métiers qui ont apporté leurs idées et on a pu faire du re-engineering. Alors, par rapport à votre question, enfin, je transpose maintenant sur la problématique de la Poste, je m'interroge en me disant, tiens, au fond, ces procédures qui ne sont pas définies, est-ce qu'il y a eu une véritable réflexion au niveau de la base sur la manière efficace de concevoir les tournées? J'ai entendu que GéoRoute avait été imposée, mais elle n'était pas appliquée partout. Donc je dis, il m'apparaît que sur ce terrain-là, il y avait beaucoup à gagner de créer une véritable discussion, un dialogue au sein des différents services, au sein des différentes unités sur la revision des processus. Et moi, c'est comme ça que je verrais les choses.
Ce qui m'impressionnait, moi, juste par rapport au processus qui n'était pas suivi, c'est que personne ne semble être dupe, en fait, de la tricherie. Et à un moment donné, une autre anecdote, c'est donc dans le centre de tri, il y a un appel radio, un appel au haut-parleur pour signaler que des nouvelles consignes de distribution vont être données, et donc tous les facteurs étaient invités à monter à 10h30 au bureau des chefs. Et je ne pense pas qu'à 10% des facteurs qui soient montés, parce que simplement, moi, il est hors de question, je suis dans mon rush, j'ai mes 7h36, et donc je ne prends pas cette demi-heure. Et ça n'a posé... Donc 90% des facteurs sont restés en place, et je n'ai entendu aucune réprimande ou aucune intervention scandalisée de la part des managers en disant, enfin c'est fou, on doit vous communiquer une information pour que vous travailliez d'une autre manière, on espère mieux, et vous ne venez pas, et donc ça va poser problème dans notre réorganisation. Pas du tout, ça semblait vraiment, c'est logique, ils ne viennent pas, ils sont débordés, on est au courant, et donc on fait avec les 10% qui viennent. C'était assez étonnant.
Donc vous voyez le rôle du manager des cadres intermédiaires. Dans ce cas-là, c'est une faillite complète. C'est une faille complète de leur rôle. Et le fait, je dirais, mais ça c'est ma perception, ça c'est ma philosophie dans le processus de travail, le fait, sur des éléments aussi concrets de processus de travail, de ne pas créer un dialogue avec les acteurs de terrain, c'est de la folie furieuse en termes de gestion. C'est vraiment de la folie furieuse en termes de gestion. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Si vous voulez créer l'appropriation sur un certain nombre de règles de base de fonctionnement, celles qui assurent l'efficacité et l'efficience, l'appropriation et donc le dialogue avec les acteurs de terrain est indispensable. Si ça ne se fait pas, mais vous allez avoir des pertes d'efficience, des consignes, moi je ne sais pas, elles étaient peut-être bonnes, elles n'étaient peut-être pas bonnes, mais personne n'a eu l'occasion d'en débattre. Alors d'où viennent-elles ces consignes-là? D'un consultant extérieur? Moi j'en sais rien. Mais si elles ne viennent pas des acteurs de terrain, oui, je ne prêche pas pour moi, si elles ne viennent pas des acteurs de terrain, je trouve qu'il y a une perte de sens, il y a une perte j'ai une perte de valorisation, il y a une perte de reconnaissance au niveau des acteurs de terrain, il y a une perte de sens par rapport à ce qui leur est demandé.
La chose la plus curieuse pour moi, c'était le manager qui était à la barre, qui est monté et qui répétait ses directives en sachant qu'elles étaient aberrantes. Ça, c'est grave, parce que lui, il connaît des gens.
Monsieur a évoqué qu'à un moment donné, il y avait et moi c'est plutôt ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait probablement des promotions qui étaient moins sur les compétences des personnes que sur des logiques d'ancienneté, voire une mutation parce que la personne était trop âgée pour encore assumer physiquement la tournée. Et donc c'est d'autres raisons qui ont justifié le fait qu'il devienne manager. Et qu'à un moment donné, ben voilà, le type fait probablement ce qu'il peut, mais c'est très maladroit et avec les armes qu'il a.
C'est étonnant, vu son expérience de terrain.
Mais je pense que les footballeurs ne font pas tous des bons entraîneurs. Quoi, hein.
Ah oui, c'est ça, exactement.
Ah ouais.
Regarde Chiffo.
Ok, mademoiselle, une dernière question.
Juste pour revenir à la formation, enfin, pourquoi ils viendraient alors qu'ils ne sont pas payés? Parce qu'au final, vous avez dit qu'ils avaient 7h30 de travail, à laquelle justement ils sont payés, et ce qui dépasse, ils ne sont pas payés. Oui, ils devraient se taper 30 000, ben 1 heure ou 30 de formation, non payée, non rémunérée.
Ah oui, le dispositif de l'auto-formation.
Je pense que personne ne va défendre le fait qu'il doit faire cette auto-formation, pas même les gens qui l'ont décidé, en dehors de leurs heures. Simplement, sans doute que dans la mise en place de ce e-learning, au-delà de l'outil, ils n'ont pas dégagé le temps humain nécessaire pour que l'outil arrive jusqu'aux personnes et que les personnes l'utilisent. Et donc c'est un moment, je crois qu'il y a quand même aussi une certaine duperie à travers ce type d'outil autoportant, c'est qu'on imagine qu'il suffit de le confier pour qu'il soit utilisé. Et donc il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation. Moi je l'ai fait par exemple avec le facteur à côté de moi, donc ce pauvre gars pour qui j'étais déjà un poids supplémentaire, donc qui assurait ma formation sans être formateur, parce qu'il était facteur, devait en plus m'accompagner dans cet e-learning. Il était à côté de moi et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je lui disais, écoute, on s'en va, il est 2h30, on est là depuis 6h.
Il avait déjà fait ses 7h36.
Oui, mais en plus, il était super volontaire. Hein. Je veux dire, moi, j'étais vraiment un fonctionnaire, je comptais mes minutes et lui, ça ne lui posait pas de problème. Donc, j'étais vraiment assez admiratif de son engagement par rapport à la poste.
Mais votre question, c'est une vraie question. Parce que dès l'instant où vous sortez des activités opérationnelles pour réfléchir à comment mieux travailler ensemble, comment mieux travailler pour le client, vous avez fatalement une tension en termes de temps entre l'activité opérationnelle d'une part et ce type de réflexion. Le problème en termes managériels, c'est qu'à partir du moment où vous ne donnez pas le temps sur ce type de réflexion, vous donnez un très mauvais signal. Vous donnez le signal qu'en fait, finalement, ce n'est pas tellement important. Finalement, ce n'est pas tellement important. Et donc, ça, c'est un mauvais signal que le management donne.
Parce que c'est encore au-dessus, en fait. Ce n'est pas au niveau des managers, c'est encore au-dessus dans l'administration qui doit justement organiser, je ne sais pas, peut-être pas les samedis, mais d'autres périodes pendant lesquelles les engagements doivent venir. Pas juste venir parce que c'est bien, mais aussi parce qu'il y a un truc à la clé, soit de l'argent, soit justement les trucs de Walibi ou des trucs comme ça. En fait.
Oui. Mais ça c'est vrai, ça c'est vraiment une décision du management. Mais alors à côté, il y a une autre question qui est liée au désir. Quel est l'intérêt pour la personne de venir? Comment susciter son intérêt? Comment lui expliquer à travers... comment lui expliquer que, au fond, si elle est associée à la décision et que ça prend un peu de temps, la décision qui peut être prise peut lui être favorable. Dans toutes les opérations de changement, on est confronté à cette question. Je suis confronté, pour l'instant, dans un hôpital de 600 personnes, au fait de dire, vous allez travailler avec nous sur une certification qualité. Quel intérêt est-ce que vous avez, et ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie. Quel intérêt est-ce que vous avez à travailler avec nous sur cette certification qualité? Si vous n'arrivez pas à ce qu'ils se disent, oui, c'est vrai, c'est intéressant, ça ne va pas marcher. Si vous arrivez, et ça c'est vraiment tout le talent du manager, à lui faire dire, au fond, c'est vrai, on a vraiment intérêt à travailler. Pourquoi? Parce que la non-qualité, c'est un coût. C'est un coût en termes financiers pour notre institution, mais c'est aussi un coût en termes d'énergie perdue. Que la qualité, ça donne de la reconnaissance à tout le monde, en ce compris à moi. Mais voilà, mais ça se travaille. Ce n'est pas acquis. Et on a souvent tendance, dans le secteur public, à considérer, parce que c'est le secteur public, parce que la finalité du fonctionnaire, des agents publics, c'est de répondre aux besoins de la société, on a toujours tendance à considérer que c'est acquis. Or, ce n'est pas acquis. C'est à acquérir.
Une chose aussi par rapport à ce que vous me posez comme question, c'est on supprime par exemple maintenant le pointage chez nous. C'est au choix des fonctionnaires. Mais parce que, justement, enfin, moi personnellement, je n'ai jamais pu pointer. Enfin, je ne pourrais pas physiquement. Si je devais faire un travail où je suis obligé de pointer, je deviendrais malade. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme cela. Parce que pointer, ça implique alors de considérer que, voilà, on fait ses petites heures, etc., etc. Bon, il y a plein de gens dans l'administration qui sont comme moi. Il y en a d'autres, par contre, qui veulent rester dans le pointage, et on les laisse rester dans le pointage. Mais comme le dit Michel, c'est quelque chose qui s'acquiert de notre façon de considérer son rapport au travail. Et qu'on va pouvoir peut-être éventuellement aider à se développer. Non pas qu'on considère qu'il faille absolument ce soit mieux si on ne pointe pas, mais on entre dans une autre dynamique. Mais ça prend du temps, parce que les gens ont été formatés pendant très longtemps. Et si je vous impose de pointer, et que vous l'acceptez, vous continuez à travailler, vous rentrez dans une toute autre logique de travail que si vous le faites sans pointer. Et pas, vous n'allez pas nécessairement plus travailler si vous ne pointez pas, hein, mais voilà, c'est une autre manière de faire les choses. Et donc ça se change très, très lentement. C'est un peu comme si on retirait un plâtre ou un corset qui nous a tenu pendant très longtemps. Si on le retire trop vite, la personne s'effondre. Parce qu'elle n'a pas les repères.
Merci beaucoup. Donc, le temps est dépassé. On n'a pas été... Donc, merci à vous tous. Passez un bon week-end ensoleillé et on se voit vendredi prochain où on parlera de la communication des institutions publiques.